Cette vidéo est en partenariat avec lesfurets.com. Salut, cette histoire est hallucinante, elle concerne Voltaire, l'auteur, le philosophe, bon, tout ça vous connaissez. Mais quand j'ai commencé à creuser ce pan de sa vie, j'ai cru que c'était une blague, tellement c'était énorme. Nous sommes en 1729 à Paris, et dans un salon huppé, avec probablement des chandelles allumées, des verres de vin, etc., au milieu du bruit des conversations, il y a une discussion qui va changer une vie. Autour d'une table de dîner, un homme de 34 ans écoute parler un mathématicien qui lui explique un truc, un petit truc. C'est un petit truc, mais c'est tellement gros, tellement évident que personne ne l'avait vu avant. Et cet homme qui écoute, c'est bien sûr François-Marie Arouet que vous connaissez sûrement sous le nom de Voltaire. Et ce soir-là, celui dont on vous a peut-être demandé d'étudier des textes en cours, des poèmes, de la philosophie, j'en sais rien, va comprendre qu'il peut dévaliser l'État français. Et je ne blague pas, il va le faire sans enfreindre une seule loi et surtout il comprend pourquoi personne ne pourra l'arrêter. Ce qu'il va gagner, pour vous faire une idée, c'est l'équivalent de plus de 1500 années de salaire au SMIC. On n'est pas sur un petit coup, je trouve ça hallucinant qu'on m'ait jamais parlé de ça en cours. Ce qu'il va faire dans les mois qui suivent, c'est pour moi l'un des coups les plus élégants de l'histoire de la finance. C'est plus malin qu'un braquage, c'est plus propre qu'une fraude. C'est comme, vous vous souvenez sûrement, des Wall Street que j'avais traité sur cette chaîne, les histoires de Jerry et Marge Silby avec le loto, ou encore Michael Larson avec le jeu TV qu'il avait un peu hacké. Je vous avais raconté tout ça. Et bien là aussi, Voltaire va exploiter une faille de logique. Et ensuite, c'est avec cet argent, je veux dire, c'est pas avec ses livres, c'est pas avec ses pièces de théâtre, c'est pas avec ses poèmes, c'est avec cet argent que Voltaire va acheter le luxe le plus cher du XVIIIe siècle, à savoir le droit de penser librement. Je m'appelle Fabien Licard et voici l'histoire vraie du philosophe qui a cassé la loterie de l'État français et qui a accessoirement changé le monde avec le butin. Mais avant de vous raconter le détail de cette histoire, je veux vous parler de quelque chose qui repose exactement sur le même principe. Voltaire a gagné une fortune parce qu'il a lu des règles que personne ne lisait. Et ça tombe bien parce que cette vidéo est en partenariat avec lesfurets.com. Nous, aujourd'hui, on fait la même erreur. On signe nos contrats d'assurance sans trop regarder, on les range dans un tiroir et on continue de payer sans jamais vérifier si on pourrait pas payer moins pour la même couverture, voire une meilleure. Je parle notamment de l'assurance multirisque habitation. Que vous soyez locataire ou propriétaire, c'est ce qui vous protège quand la vraie vie débarque sans prévenir. Je l'ai vécu avec un dégât des eaux, mais ça peut être aussi un cambriolage, un incendie qui démarre chez le voisin et c'est votre mur qui trinque, etc. Ça couvre aussi votre responsabilité civile, donc les dommages que vous pourriez causer aux autres. Bref, l'assurance multirisque habitation, c'est pas un gadget, c'est essentiel. Le problème, c'est que la majorité des gens ne comparent jamais. Ils prennent le premier contrat qu'on leur propose et ils y restent pendant des années. Lesfurets.com, c'est un comparateur en ligne totalement gratuit qui vous permet en quelques minutes de comparer les offres d'assurance habitation pour trouver celle qui correspond vraiment à vos besoins et à votre budget. Et en moyenne, les utilisateurs économisent 480 euros par an. 480 euros, c'est un week-end à deux dans une capitale en Europe. C'est 10 mois d'abonnement à une salle de sport. Je veux dire, payer sans voir s'il n'y a pas moins cher pour la même couverture, c'est de l'argent que vous laissez littéralement en cadeau chaque année. Je vous mets le lien dans la description, faites-y un tour, c'est rapide. Allez, on retourne en 1726. Pour comprendre ce qui va se passer en 1729, il faut d'abord comprendre qui est Voltaire à ce moment-là et surtout pourquoi il est prêt à tout. Ce qui va lui arriver va lui servir à transcender une humiliation qu'il a subie. Je vous raconte. On recule de 3 ans en arrière. On est en janvier 1726, Voltaire fréquente les mêmes salons et les mêmes théâtres que la haute aristocratie. Il croise régulièrement le chevalier de Rohan Chabot. C'est un aristocrate, un aristo arrogant qui n'a jamais rien accompli de sa vie, mais bon, il porte un nom. Et ça, à cette époque, ça compte d'avoir un nom. Et un soir, à l'opéra, Rohan apostrophe publiquement Voltaire en disant bien fort « Monsieur de Voltaire » ou « Monsieur Arouet », comment vous appelez-vous au juste ? Alors, on dirait pas. C'est pas les insultes de 2026, mais à l'époque, ça, c'est une insulte. Arouet, c'est le nom de famille de Voltaire. Voltaire, c'est le nom de scène, on va dire, que l'écrivain s'est choisi. Alors, en disant ça, Rohan, il envoie le message public et insultant ben que lui n'est personne. Et Voltaire va répliquer par un trait d'esprit sur le nom de Chabot. Chabot va pas aimer. 2 jours plus tard, une nouvelle confrontation entre les deux a lieu, cette fois à la Comédie Française, dans la loge de l'actrice Adrienne Lecouvreur. Et la légende rapporte que Voltaire aurait dit « Mon nom, je le commence, et vous, vous finissez le vôtre ». Alors on ne sait pas avec certitude si la phrase exacte est de lui, parce que cette phrase, elle apparaît dans des sources écrites que quelques décennies plus tard après les faits. Mais ce détail importe peu parce que ce qui va suivre, lui, est parfaitement documenté. En tout cas, l'idée est là. Voltaire lui dit « Moi, je me construis. Toi, tu vis sur un héritage qui est en train de s'éteindre. » C'est à la fois brillant et cruel. Et c'est une grosse erreur de la part de Voltaire. Parce que Rohan, il ne va pas lui pardonner ça. Il a de l'argent, il a du pouvoir, il a un nom. Donc quelques jours plus tard, alors que Voltaire est en train de dîner tranquillement chez le duc de Sully, on le fait descendre dans la rue pour un faux prétexte. Et là, dans le froid, les laquais de Rohan l'attendent et vont le tabasser à coups de bâton. Et Rohan est pas loin, il regarde la scène depuis son carrosse au chaud, il est hilar. Donc Voltaire est blessé physiquement, il est humilié, donc il est aussi blessé intérieurement. Il remonte chez le duc de Sully, il est couvert de bleu. Il supplie son hôte de l'accompagner chez le commissaire, mais le duc refuse. En fait, aucun de ses amis aristocrates ne va prendre sa défense. Les gens, les aristos, vont même en rigoler dans les salons. Voltaire est seul. Il est seul et furieux. Alors il commence à prendre des leçons d'escrime. Déjà, il voudrait provoquer Rohan en duel, sauf que la famille Rohan a des connexions que Voltaire n'aura jamais. Et elle obtient une lettre de cachet, c'est-à-dire un ordre royal d'emprisonnement sans procès. Voilà, juste parce qu'ils savent qu'ils se préparent à apprendre l'escrime pour lancer un duel. Et le 17 avril 1726, Voltaire est arrêté, il est envoyé à la tristement célèbre Bastille. C'est la deuxième fois d'ailleurs qu'il a envoyé là-bas. La première fois, c'était en 1717, à 23 ans, quand ses satires contre le régent lui avaient quand même valu 11 mois de prison. Mais cette première fois, il en avait profité pour écrire. Il avait écrit le journal d'un prisonnier. Non, ça c'est pas lui. Il avait écrit Œdipe, la tragédie qui l'a rendu célèbre du jour au lendemain. C'est aussi là qu'il avait adopté son nom de scène, c'est-à-dire Voltaire. Cette deuxième fois, il n'écrit rien. Mais je pense que c'est là-bas qu'il va comprendre la leçon que le reste de sa vie ne va que lui confirmer. En France, si tu n'as pas d'argent ou de titre de noblesse, un quidam ou un homme de lettres n'est rien face au pouvoir. Quelqu'un comme Rohan peut te faire tabasser en pleine rue et c'est vous qu'on mettra quand même en prison. Après 2 semaines de détention, il réussit à négocier sa libération, mais il y a une condition terrible derrière ça, il doit s'exiler en Angleterre. Voltaire découvre un autre monde, une monarchie constitutionnelle, une presse relativement libre, un pays où les commerçants sont respectés, un pays où la richesse confère une protection que le nom de famille seul n'offre pas. Donc il comprend aussi le pouvoir de l'argent, il rencontre Jonathan Swift, Alexander Pope, il lit Newton. D'ailleurs, j'ai sorti une vidéo sur Newton aussi qui est hallucinante, c'était celle juste avant celle-ci. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à la voir après cette vidéo-là. De toute manière, dans la description de cette vidéo, vous avez la playlist de tous les Allthreads. Je disais donc, il lit Newton et John Locke, il observe, il note, il compare, et il arrive à une conviction qui va guider chacune de ses décisions à suivre pour tout le reste de sa vie, c'est qu'en France, pour avoir le droit de dire ce qu'on pense, il faut être trop riche pour qu'on ose vous emprisonner. L'argent, ça va pas vraiment être une fin en soi. L'argent, pour lui, ça va devenir un bouclier possible. Et ce bouclier, il va le construire beaucoup plus vite que prévu. Il va rentrer à Paris début 1729, il a donc 34 ans, il est fauché. La succession de son père, qui est mort en 1722, va lui donner que les intérêts de sa part d'héritage. C'est quand même environ 4250 livres par an. À l'époque, la monnaie, c'est la livre parisis. Et il pourra toucher le capital qu'à 35 ans. Et encore, en prouvant sa bonne conduite. Avec un casier comme le sien, c'est plutôt mal parti. Donc il risque d'avoir quand même les intérêts du capital de son père décédé, mais jamais le capital en soi. Voltaire vit dans un appartement modeste. Il fait du courtage d'affaires pour survivre. Il attend une petite opportunité et elle arrive. Et quand elle arrive, elle est tellement absurde que personne ne la prend vraiment au sérieux. Cette opportunité porte un nom, c'est la loterie de Pelletier des Forts. Pour comprendre pourquoi cette loterie voit le jour, je dois vous briefer rapidement sur le chaos financier dans lequel se trouve la France. 10 ans plus tôt, en 1720, le pays a vécu l'un des pires cracks de son histoire. Le responsable, il s'appelle John Law, c'est un Écossais, brillant, dangereux aussi. Il a été condamné pour meurtre en duel à Londres, il s'est évadé de prison, c'est un joueur et un économiste autodidacte, et il a réussi à séduire le régent Philippe d'Orléans avec une idée qui était à l'époque un peu révolutionnaire, le papier monnaie. Pour ça, il crée la Banque Générale, lance la Compagnie du Mississippi, met en vente des actions, la spéculation monte, elle monte comme toute spéculation, ça devient une bulle, ça devient délirant, et puis la bulle éclate, et là c'est la panique. Les investisseurs se ruent pour convertir leur papier qui vaut rien finalement en or, les actions deviennent aussi précieuses que du papier toilette finalement, plus personne n'en veut, l'eau est limogée, et ils s'enfuient de la France, et ils laissent derrière lui donc une France économiquement très faible, et une sorte de trauma qui va rendre possible l'erreur qui va suivre. Et quand je dis que c'est un traumatisme, j'exagère pas. Le mot banque, ça devient presque une insulte en France à ce moment-là. Pendant des décennies, les Français vont se méfier viscéralement de tout ce qui ressemble à un instrument financier. C'est comme si tout un pays avait été arnaqué. Et c'est exactement pour ça que l'État va commettre l'erreur qui nous intéresse. L'Hôtel de Ville de Paris a émis des obligations. Alors, une obligation, en gros, c'est une reconnaissance de dette, mais faite par l'État. Et ça peut s'échanger, il y a un cours des obligations, ça existe encore aujourd'hui, hein, les obligations d'État. Ça ne rapporte pas beaucoup, mais normalement, on a l'assurance que ce sera remboursé, parce que normalement, un État ne fait pas faillite. La valeur du bon s'est effondrée parce que l'État a baissé unilatéralement les taux d'intérêt pour soulager le trésor, donc plus personne ne veut des obligations. Parce que tant que tu as l'obligation, tu reçois un petit pourcentage d'intérêt. C'est comme si c'était toi qui avais prêté de l'argent à l'État. Mais là, c'est plus du tout intéressant. Le contrôleur général des finances, Michel Robert Lepelletier Desforges, doit donc trouver un moyen de redonner confiance dans ses bons. Et là, il a une idée géniale. Je mets des guillemets à idée géniale, ok ? Il crée une loterie, mais sur le papier, je vous assure que c'est une idée brillante, parce que c'est une loterie réservée exclusivement à ceux qui ont un bon, un de ces bons dépréciés, et ça va être mis en place par un arrêt du Conseil confirmé le 6 mars 1729. Le principe est très simple, je vous l'explique. Si vous possédez un bon de l'hôtel de ville, alors vous pouvez acheter un billet de loterie. C'est un droit à l'achat. Mais le prix du billet de loterie que vous allez acheter, il coûte un millième de la valeur nominale du bon. En clair, si vous avez un bon de 1000 livres, une obligation de 1000 livres, eh bien le billet de loterie que vous pouvez acheter, qui est associé, il coûte une livre. Voilà, pour un bon de 10 000 livres, le billet coûte 10 livres. Et pour un bon de 100 000 livres, le billet coûte 100 livres. L'argent qui est collecté pour acheter ces billets, ça devient le pot. Et le pot, c'est ce qui va être remis aux gagnants, en le divisant évidemment par le nombre de gagnants et de tickets gagnants. 85% du pot va être redistribué aux gagnants et 15% du pot vont être conservés pour être remis dans le pot suivant. Jusque-là, ça ressemble à un remboursement de dette qu'on aurait un peu gamifié. C'est pas idiot. Mais il y a un détail énorme que personne ne semble remarquer mais qui change tout. À chaque tirage mensuel, l'État ajoute, pour que ce soit intéressant, un bonus fixe de 500 000 livres au pot que vont se partager les personnes dont on tire les bons. 500 000 livres, c'est une somme colossale. Pour vous donner une ordre d'idée, un revenu annuel de 30 000 livres à l'époque, hein, par an, ça vous plaçait déjà parmi les gens très riches. Autre point important, ces 500 000 livres sont ajoutés quel que soit le nombre de participants. C'est pas quel que soit le nombre de bons, parce que quel que soit le nombre de bons aussi, mais si tous les bons sont même participants, ça marche aussi. Il n'y a rien qui contredit ça. Vous me voyez venir, hein. Les billets sont vendus par les notaires. Le tirage a lieu le 8 de chaque mois. Chaque notaire tient un registre des numéros de billets, des devises choisies par les joueurs et des prix qui ont été payés. Mais maintenant, accrochez-vous, parce que c'est là que Lepelletier Desforges a commis l'erreur de sa vie. Il a indexé le prix du billet sur la valeur du bon. Ok, c'est même plutôt logique. Mais il n'a pas indexé les probabilités de gagner sur ce même prix. Je veux dire, chaque billet, quel que soit son prix, hein, que vous l'ayez payé une livre ou 100 livres, ça représente toujours une chance dans le tirage. Vous imaginez un énorme pot qui est rempli de milliers de billets, ils sont tous identiques, sauf qu'il y en a certains qui ont coûté 100 fois moins cher que d'autres, et pourtant ils ont toute la même possibilité d'être tirés au sort, la même proba. Vous comprenez, un billet à une livre a exactement la même proba d'être tiré qu'un billet à 100 livres ou plus. Est-ce que vous voyez le problème? Si quelqu'un achète des milliers de billets à une livre, chacun peut lui rapporter une part du jackpot déjà à 500 000 livres. Sauf que le coût total de tous ces billets, qui coûte qu'une livre, est largement inférieur au montant des gains distribués. En clair, il est mathématiquement rentable d'acheter tous les billets qui coûtent une livre. C'est de l'argent garanti derrière. Quelqu'un pouvait battre le système et devenir riche à coup sûr. Le dîner où tout se joue va avoir lieu au début de l'année 1729. Voltaire est invité chez un chimiste parisien et autour de la table, il y a un homme qui va changer sa vie. Il s'appelle Charles-Marie de la Condamine. Il est né en janvier 1700 à Paris, c'est le fils d'un receveur des finances. Il est formé en mathématiques au lycée Louis-le-Grand. Pour info, c'est le même établissement qu'a fréquenté Voltaire. Il s'est engagé dans la cavalerie à 18 ans et a combattu en Espagne contre Philippe V. Pendant cette campagne, il a attrapé la variole qui lui a défiguré le visage. Donc c'est quelqu'un qu'on remarque, c'est quelqu'un qui est un petit peu spécial même physiquement, quoi. Mais c'est avant tout un mathématicien, un chimiste, un géographe, un aventurier, et bien sûr le genre de type qui lit un décret fiscal comme nous on lirait un petit roman policier. Et ce soir-là, la conversation elle tourne vers la loterie que le gouvernement vient de lancer. La Condamine annule le décret, il a vu une faille. Et il explique à Voltaire que si un petit groupe organisé rachetait suffisamment de petits bons de 1000 livres, donc des bons dont plus personne ne veut et qu'on trouve à très très bas prix sur le marché, hein, je vous rappelle qu'un bon de 1000 livres ne vaut pas forcément 1000 livres puisqu'en fait on s'échange ça avec un cours et que le cours est extrêmement bas, eh bien cette personne pourrait acheter des milliers de billets de loterie à une livre pièce. Et si ce groupe détient assez de billets, il va capter mécaniquement l'essentiel du pot, y compris et surtout les 500 000 livres de l'État. Le coût total d'acquisition est largement inférieur au gain. À partir de là, c'est plus qu'une question de volume. C'est comme Jerry Marsh Selby avec le windfall dont je vous avais parlé dans une précédente vidéo. C'est pas de la triche, c'est pas illégal. La condamine a le cerveau, mais Voltaire, il a des réseaux quand même. Il a le charisme. Et souvenez-vous, il a une rage intérieure qui n'a pas faibli depuis l'affaire de Rouen. Ensemble, ils vont recruter 11 complices. Des financiers, des amis de confiance, des prête-noms. 13 membres au total, c'est le Voltaire's 13. Non, ça marche pas. Je voulais faire un truc comme le Ocean's 11, mais ça marche pas trop. Enfin bon, comme le film avec Clooney n'existait pas à l'époque, ils vont juste s'appeler le syndicat. Mais il reste un obstacle pratique. Je vous ai dit que les billets n'étaient vendus que par quelques notaires. Donc si Voltaire débarque chaque mois pour acheter des piles entières de billets, ça va se voir, ça va être grillé un peu trop tôt. Il y a de fortes chances qu'ils aient trouvé un notaire qui fermait un peu les yeux. Et chaque mois, le syndicat remplissait les noms à sa convenance. Et c'est là que je peux vous parler de la magnifique arrogance de Voltaire. Par tradition, les joueurs inscrivent au dos de leur billet de loterie une devise, une phrase porte-bonheur, un petit mot juste pour soi. Voltaire, lui, il va le faire aussi, mais il va transformer tous ses petits écrits en provoque. Sur des centaines et des centaines de billets, il va mettre des phrases moqueuses. Il écrit par exemple « Vive la bonne idée de MLC ». MLC, c'est les initiales de la condamine. Il écrit « Vive Monsieur Pelletet d'effort ». Pourquoi c'est ironique? Parce que c'est l'homme dont il est en train de vider les caisses, évidemment. Et il signe à chaque fois avec des petits pseudonymes qui sont de plus en plus grotesques. Voltaire, ok, il veut gagner, mais il veut surtout que l'État sache qu'il a été battu par plus malin que lui, par plus intelligent que lui. Sauf que cette arrogance, ça va devenir une signature, involontaire. Mais cette signature va être le fil qui va permettre aux autorités de remonter jusqu'à Voltaire. Les registres officiels des tirages de janvier 1729 à février 1730 ont survécu. Ils racontent la montée en puissance du syndicat un peu comme dans un thriller. En janvier, premier tirage, répartition normale. Mois de février, les choses basculent, quelqu'un commence à gagner un peu trop souvent. Il y a une grosse nette des billets gagnants qui correspondent à des bons de valeur minimale, comme par hasard. Et plusieurs d'entre eux sont au même nom. Par exemple, la condamine, qui apparaît nommément dans les registres, 13 billets gagnants achetés une livre chacun, qui leur apporte 13 000 livres. À partir de mai, là, il n'y a plus de doute, le schéma est visible, les mêmes noms, tirage après tirage, ça revient, le syndicat rafle tout. En octobre 1729, c'est l'apogée, la quasi-totalité du pot est partagée entre 13 gagnants. Bah oui, parce qu'il y a le coup de bol du tirage, bah là c'est bon. 13 gagnants qui ont tous des noms familiers qu'on a déjà tirés plein de fois les mois précédents. Ils se partagent un peu plus d'un million de livres. Les autorités vont finir par comprendre, mais le problème, il est trop tard. Le pelletier d'effort est furieux, il veut trouver la personne et il va porter l'affaire devant les tribunaux et accuse le syndicat qu'il a identifié et encore plus Voltaire de fraude. Mais pendant que la procédure avance, les tirages continuent. Chaque 8 du mois, le syndicat empoche un peu plus. Et en janvier 1730, les autorités modifient des règles, mais clairement c'est trop tard. La loterie va être supprimée, avec un dernier tirage en juin 1730, et les registres officiels des mois de mars à juin 1730 ont mystérieusement disparu. Que va dire le verdict du Conseil royal? Il est sans appel, il n'y a aucune règle qui a été enfreinte. La loterie était mal conçue, la responsabilité de tout ça, ça incombe au concepteur, pas aux joueurs, et encore moins à Voltaire qui a été pourtant désigné. Les gains sont donc conservés intégralement. La part de Voltaire, c'est environ 500 000 livres. Pour tout vous dire, un ouvrier parisien à cette époque gagnait entre 200 et 300 livres par an. Lui, il vient de gagner 500 000 livres. Il vient de gagner l'équivalent de plus de 1500 années de salaire d'ouvrier. Vous venez de découvrir un pan de la vie Voltaire incroyable, on est d'accord. Mais ce qu'il a fait de cet argent va être aussi incroyable. Ces 500 000 livres, il voit ça comme un capital de lancement. C'est pas une fin en soi pour lui. Il va le faire fructifier pendant 50 ans. Il file en Lorraine, le duché émet des obligations à des conditions très avantageuses là-bas, donc il en achète. Le problème, c'est que pour en acheter, il faut être natif du coin. Il n'y a que eux qui ont le droit d'en acheter. Alors Voltaire va prétendre que son vrai nom, Arouet, c'est une déformation de Arouet avec un H qui est un village lorrain. Et le pire, c'est que ça va marcher. Et il achète 50 obligations, il les revend pour 3 fois leur prix, bref, il fait de l'argent quoi. À partir de 1734, il investit chez les frères Paris, les fournisseurs officiels des armées du roi. Pendant 20 ans, Voltaire s'enrichit grâce aux guerres françaises. Son argent va financer le fourrage, les uniformes, le ravitaillement. Le business le plus stable de l'ancien régime, c'est la guerre. Et alors que je croyais ces coups de génie terminés, en écrivant la vidéo, j'ai découvert quelque chose d'aussi marrant que la loterie. Plus tard, Voltaire va développer l'art de paraître mourant. En fait, il va convertir son capital en rente viagère, c'est-à-dire qu'il va recevoir des intérêts versés jusqu'à la mort du prêteur, c'est-à-dire lui. Vous connaissez peut-être les viagers pour les appartements. Par exemple, quelqu'un habite dans un appartement, j'en deviendrai le propriétaire à son décès de cette personne, mais tant que cette personne est vivante, du coup, je lui donne de l'argent, je lui paye un loyer. Je schématise, mais grosso modo, c'est ça. Mais là, c'est pareil avec le capital de Voltaire. Contre le capital perçu au décès de Voltaire, on lui paie des intérêts de son vivant. Et Voltaire, il se plaint en permanence de sa santé. Il se plaint pas n'importe où, devant des avocats, ceux en général d'ailleurs qui négocient ses contrats. Il se plaint de sa santé en public, il va pas bien quoi. Ses débiteurs du coup accèdent des taux assez élevés pour les intérêts parce que tout le monde est persuadé qu'il va mourir. Mais il va très bien. Tout ça c'était faux, il va vivre jusqu'à 83 ans, ce qui est pas mal. Bon, tout ça c'est de la mécanique. Je trouve que le vrai sujet, c'est ce que cet argent va lui permettre de devenir. Vous vous souvenez du début de la vidéo. En 1758, il va acheter Ferney, à la frontière suisse. C'est très pratique parce que si la police française arrive, il passe en Suisse, et si les Genevois s'agacent, il repasse en France. Et à Ferney, Voltaire va écrire, mais il ne va pas faire que ça, il va aussi créer une manufacture horlogère. En 1766, il y a des troupes civiles à Genève, ça va jeter à la rue des centaines d'artisans horlogers. Et bien lui, il va les accueillir, il va leur construire des maisons, il va assécher les marais pour eux, pour construire tout ça. Il va financer des ateliers, et il utilise sa correspondance avec des souverains d'Europe pour leur vendre ses montres. Le petit village, là, le petit village du départ, face de quelques dizaines d'habitants, a plus d'un millier. Ferney devient une marque, c'est un empire miniature qui est géré par un philosophe qui, entre deux lettres à l'impératrice de Russie, va rédiger le dictionnaire philosophique. Je trouve ça dingue. Et c'est depuis Ferney que Voltaire mène les combats qui vont marquer l'histoire, que là, pour le coup, vous avez sûrement vu en cours ou dans votre vie. En 1762, l'affaire Calas, où il finance de sa poche les enquêtes et les avocats pour défendre Jean Calas, un protestant toulousain accusé à tort et exécuté sur la roue. En 1766, l'affaire du chevalier de la Barre, c'est Voltaire qui dénonce l'exécution d'un jeune homme de 19 ans torturé et décapité pour blasphème. Et tout ce qu'il écrit, le traité sur la tolérance, le dictionnaire philosophique, Candide, toute son œuvre est rendue possible parce qu'un homme financièrement invulnérable peut dire tout ce qu'il pense. Sans protecteur, sans laisse, il doit de compte à personne. L'argent, parfois, ça peut permettre ça. Rappelez-vous, 1726, quand il a pris des coups de bâton devant le carrosse de Rouen, il n'y avait personne pour le défendre. En 1762, plus personne en Europe n'oserait lever la main sur Voltaire, juste parce qu'il est ultra riche. Voltaire avait un pied dans la littérature, mais aussi un autre dans la finance, et je trouve qu'on ne connaît pas ce pan-là chez lui, ça l'a rendu quasiment invincible. Et il y a un dernier personnage dont je dois vous parler. C'est la Condamine. On en a parlé, c'est lui qui a l'idée de base et qui la présente comme telle à Voltaire. Mais la Condamine, vous le connaissez sans le connaître. Il va avoir sa part de fortune lui aussi avec cette loterie. En 1730, il entre à l'Académie des sciences. En 1735, avec cet argent, il part diriger une expédition au Pérou pour vérifier la théorie de Newton sur la forme de la Terre. La mission devait durer quelques années, ça va en durer 10 ans. Et au lieu de rentrer directement, la Condamine choisit la route la plus dangereuse. Il descend l'Amazone sur un radeau. Il devient le premier scientifique européen à naviguer sur l'Amazone. Pendant ce voyage de plusieurs mois, il dresse la première carte scientifique du bassin amazonien. Il va découvrir le caoutchouc pour l'Europe, on ne connaissait pas avant lui, c'est complètement inconnu en Europe. Il étudie le quinquina, la plante d'où on extrait la quinine qui sert à lutter contre le paludisme. Ça aussi, c'est fou. Ces histoires croisées, elles me fascinent. On lui doit beaucoup finalement à ce gars. Il rentre en France en 1745, et il était devenu sourd à cause de ses explorations, et il milite pour la vaccination contre la variole. À l'époque, c'est hyper avant-gardiste, et il va sauver, comme ça, des millions de vies indirectement. Est-ce que vous ressentez le vertige que j'ai moi-même ressenti en faisant mes petites recherches? Les liens de causalité incroyables qu'il y a dans cette histoire-là, l'argent volé, mais légalement, je sais que c'est des oxymores, mais ça me plaît de le dire comme ça, au gouvernement français, grâce à une bidouille mathématique, a directement financé d'un côté les textes fondateurs des droits de l'homme, c'est quand même pas rien ce qu'il a fait Voltaire, et de l'autre côté, certaines des plus grandes découvertes scientifiques du siècle des Lumières. Tout ça grâce à un dîner. Voltaire, il n'a pas triché, il n'a pas volé. Il a lu, grâce à son ami, les règles un peu plus attentivement que ceux qui les avaient écrites. C'est un cas d'école de pensée presque critique appliquée, le genre de choses qu'on devrait enseigner en cours de maths et en cours de philo en même temps. Je pense que vous voyez Voltaire autrement aujourd'hui. C'est le philosophe le plus célèbre de France, c'est le champion de la raison et de la tolérance, c'est l'homme dont les idées vont irriguer, je viens de le dire, la Déclaration des droits de l'homme, et il doit toute sa carrière à une quasi-arnaque. Et avec le bulletin de cette victoire, il a pu écrire « Combat, transformer le monde » sans jamais demander la permission à personne. Merci d'avoir suivi ce Holzred, et pour en revenir à notre partenaire, s'il y a une leçon à retenir de Voltaire au-delà de cette histoire, c'est que lire les règles et comparer, ça peut changer des choses dans votre vie. Alors commencez par un truc simple, allez sur lesfurets.com, comparez votre assurance habitation, c'est gratuit, ça prend quelques minutes, et vous pourriez économiser jusqu'à 480€ par an, le lien est juste en dessous dans la description. Prenez soin de vous, je m'appelle toujours Fabien Licard, à très bientôt, ciao.